Quelle est la singularité de ce processus méditerranéen enclenché par l'Église, cette fois-ci à Marseille, le sens théologique de telles rencontres sur la Méditerranée ?
L'histoire et le contexte méditerranéen nous racontent un tissu continu de relations heureuses et dramatiques, de rencontres, de dialogues, et met en évidence que c'est un lieu de révélation qui nous dit que, en fait, Dieu est dialogue et que le dialogue est le lieu de Dieu. Parce que la Méditerranée, entre les terres, étymologiquement, c'est un entre-deux relationnel qui nous raconte une dynamique d'écoute qui jaillit des entre-deux, des personnes, des langages, des rives. C'est ce que les philosophies autour de la Méditerranée ont appelé la parole, le verbe, le logos. Quelle est cette mystérieuse parole à même de nous happer dans un dialogue continu et puis peut-être un dialogue éternel? C'est ce que l'on voit déjà aussi dans la Genèse, au commencement, et dans le prologue de Saint Jean, au commencement était le Verbe.
Depuis 10 ans, le pape François a mis en lumière cette dynamique méditerranéenne. Est-ce nouveau, car criant au regard des enjeux de l'époque, ou l'Église universelle avait-elle avant déjà ce souci d'une théologie de la Méditerranée?
Désormais, c'est une théologie vraiment relationnelle qui constitue notre champ de travail dans un réseau de réseaux où l'Institut catholique de la Méditerranée est impliqué avec des théologiens des différentes rives. Nous avons rédigé un manifeste de théologie depuis la Méditerranée, un texte ouvert offrant une sorte de balisage où le dialogue devient le cœur de la théologie, ce qui a été indiqué par le pape François déjà dans son discours de Naples de 2019. C'est le dialogue qui devient même la méthode théologique fondamentalement. C'est la relation qui est au cœur de la théologie, et ça, je crois que c'est nouveau. Ça se prépare depuis un siècle au moins avec les philosophes dialogiciales, mais là on entre dans une ère nouvelle avec une détermination forte à partir de Dieu qui est dialogue.
Quelle est véritablement la responsabilité théologique de l'Église catholique en Méditerranée? Est-ce qu'il y a un peu cette responsabilité du berceau?
Je dirais que la singularité du contexte méditerranéen, qui est aussi le berceau des trois grandes religions monothéistes et de grandes philosophies, je pense à l'héritage grec en particulier, nous oblige à revisiter nos relations avec en particulier le peuple d'Israël. Et là, nous nous rendons compte, sur la base aussi du document du dicaster pour le dialogue œcuménique avec le dialogue avec le judaïsme, nous nous rendons compte à partir du document de 2015 qui nous invite la théologie chrétienne, catholique du moins, à se libérer des traces de la théorie de la substitution. Alors comment faire les comptes avec tous ces dialogues? Comment faire en sorte de les respecter profondément, même s'ils nous échappent, j'allais dire? Cela nous concerne la théologie, une théologie dialogique, mais qui pour le coup est invitée à une profonde humilité et à une profonde sensibilité vers l'autre. C'est le tu qui fait advenir le je, le tu de l'autre qui fait advenir notre nous. Et donc là, c'est nouveau. Vous voyez, ici sur Marseille, on est très inspiré par Christian de Cherget qui se posait la question par rapport à tous ces peuples de la Méditerranée, en particulier avec les peuples de l'islam. Il écrivait: pouvons-nous nous abreuver mutuellement? Eh bien, c'est au goût de l'eau qu'on en juge. Et la véritable eau vive est celle que nul ne peut faire jaillir ni contenir, et le monde serait moins désert si nous pouvions nous reconnaître une vocation commune, celle de multiplier au passage pour nous abreuver les fontaines de cette eau de miséricorde. Et comment douter de cette vocation commune? Et donc cela nous inspire à tel point que nous travaillons aussi sur une école catholique du dialogue avec des partenaires en Méditerranée, au Liban, de ça va jusqu'à l'Irak, de Naples, de Bari, de Rabat au Maroc, du Pisaï, des chercheurs aussi de Haïfa, du Caire, l'ISCREP de Barcelone, les théologiens de Méditerranée avec nos églises, nos évêques. Non seulement nous nous mettons à l'écoute des personnes les plus fragiles, des questions qui concernent bien évidemment les migrations, l'environnement, les réalités locales avec leur parfum, à l'écoute, mais pour nous engager d'entretenir ces dialogues, en particulier avec les jeunes, de manière œcuménique, interreligieuse, avec des centres culturels, en fait pour faire de la Méditerranée un grand espace de dialogue, une Pentecôte continuée, si on peut dire, et cela nécessite l'engagement des théologiens, mais aussi nous sommes en lien avec des chercheurs chercheurs, des théologiens juifs, des chercheurs musulmans, des chercheurs sur la relation, bien évidemment, avec le monde agnostique ou athée, le dialogue comme lieu de Dieu. Ça ne les gêne pas. Bien au contraire, ça les provoque, ça les dynamise dans cet engagement avec nous ou nous avec eux pour entretenir ce dialogue qui est une promesse, une espérance aussi de paix, de prospérité, de développement, d'entente entre tous ces peuples. Et je crois que cette pluralité méditerranéenne, si elle arrive à envisager un horizon heureux dans l'espérance, eh bien, elle peut dire beaucoup au reste du monde des possibilités de paix.
Pourquoi sont concentrés tout autour du pourtour méditerranéen autant de villes-messages ?
Il y a une pluralité culturelle, religieuse, des personnes qui viennent de plusieurs continents, d'Asie, d'Afrique, du nord de l'Europe, sans compter les migrants des autres continents, qui sont accueillis de manière très fraternelle, amicale par la famille méditerranéenne. À ce titre-là, la capacité de relation, de dialogue dans ces grandes villes méditerranéennes devient un message. Je le vois ici à Marseille, entre la pluralité culturelle, la pluralité religieuse, elle n'est pas un obstacle à nos relations. La relation est première. Les gens de Méditerranée, j'allais dire peut-être à cause du contexte, peut-être que le climat joue aussi, peut-être que la gastronomie joue aussi, mais les gens en Méditerranée ont vraiment l'envie de se rencontrer, de se parler sur l'arc méditerranéen. Et nous avons aussi des entreprises qui nous disent « Venez nous aider, nous offrir des formations au dialogue interculturel et interreligieux. » On a des clubs de foot qui nous le demandent parce que, nous disent-ils, si vous arrivez à faire des questions religieuses, à les mettre non pas sur le plan des problèmes et des blocages, mais du côté des solutions, alors nous aurons des équipes de foot performantes. Parce que parmi les joueurs, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des bouddhistes, il y a des gens des nouvelles religiosités. Donc en Méditerranée, les gens sont conscients que la religion est du côté de la solution plutôt que du côté des problèmes. Sur cela, pas d'irénisme, pas d'idéalisme non plus, parce qu'il y a des conflits. Mais nous continuons à considérer, en majorité, que la question religieuse est du côté des solutions.
Y a-t-il une certaine théologie de la mer ou du port qui fait que Marseille, entre autres, puisse délivrer ce message ?
Oui, il y a une théologie de la mer, une théologie du port depuis toujours. La Méditerranée constitue un entre-deux. Les villes portuaires sont orientées davantage vers les autres villes portuaires du pourtour méditerranéen des cinq rives, davantage que vers le continent. Pour le coup, avec une conscience singulière d'être tournée vers l'entre-deux, sorte de vortex maritime dangereux, mais qui facilite, qui oblige à se relationner avec l'autre. L'apport culturel de chaque ville méditerranéenne est déterminé par ce qu'elle a reçu des villes des autres rives. Donc il y a une conscience de dépendre de l'autre. Donc il y a un certain courage aussi, une certaine spontanéité à voir dans l'autre un apport plus qu'un danger.
Comment, dans le cadre de son pèlerinage méditerranéen, pensez-vous que le pape François conçoit son message délivré à Marseille ?
Ce qui est certain, c'est que c'est les théologiens de Naples hein, qui l'avaient invité en 2019 et où il a su, alors c'est magnifique, hein, un pape qui participe à un colloque, qui écoute les intervenants et qui ensuite interagit de manière lui-même dialogique puisqu'il écoute et quand il prend la parole, il évoque le patriarche de Constantinople pour dire « je dis tout cela, mais en binôme ». Ce qui est certain, c'est qu'il continuera à nous accompagner, à nous dynamiser dans ce processus de rencontre. Les échos déjà de Bari, de Florence, les échos des autres ports de Méditerranée qu'il a visités, ce sera un écho de plus, celui de Marseille, et qui fera un écho déjà en amont et en aval, aux prochaines étapes des rencontres méditerranéennes. Et il y aura beaucoup d'échos après sa visite. Et au fond, en hébreu, la parole, étymologiquement, c'est midbar. Ça veut dire l'écho de la parole dans le désert. Alors nous attendons tous ces échos de la parole d'un pape, de la parole des jeunes, de la parole des évêques. Et nous savons qu'il est fort pour faire vibrer tous ces échos pour une Méditerranée qui se laisse configurer au projet de Dieu, au rêve de Dieu.